Sonia Delahaye, vous êtes psychologue et vous étiez ce matin à la grande conférence pour comment favoriser le développement harmonieux de l'enfant face aux enjeux contemporains.
Ce matin, on a fait une conférence sur comment développer le potentiel de l'enfant. Donc, c'est un sujet qui me passionne particulièrement parce que je suis vraiment très, très intéressée par les neurosciences qui nous permettent de savoir aujourd'hui ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire en termes d'éducation notamment pour préserver le magnifique potentiel de l'enfant.
Pour vous, l'enfant est un adulte en construction.
Tout à fait. C'est-à-dire que l'enfant est programmé pour se développer de manière optimale. Et en fait, selon l'environnement dans lequel il va évoluer, son développement va être harmonieux ou non. Et donc, je me suis penchée sur la manière dont on pouvait l'éduquer pour optimiser justement ce potentiel en fait en développement. Et donc, notamment l'alimentation, le sommeil, les écrans, qu'on puisse tous un peu réfléchir à quelles sont les règles éducatives qu'on doit poser auprès de l'enfant qui vont permettre en fait de développer son magnifique potentiel. Et pour moi, on peut élever son enfant uniquement avec des règles de protection et aucune règle de domination. Donc c'est l'approche que j'ai développée dans mon cabinet qui s'appelle le centre Chrysalide, pour revenir justement sur l'idée du potentiel en développement. Dans ce cabinet, je transmets à des parents cette approche qui est de pouvoir éduquer l'enfant uniquement à travers 5 règles et uniquement des règles de protection basées sur les neurosciences en fait. Qu'on arrête tous de poser des actes, des règles auprès de l'enfant un peu au pif parce qu'on sent qu'une heure par-ci par-là d'écran c'est pas mauvais, parce que bon, on peut le coucher un peu plus tard ce soir, c'est sympa, etc. Donc on puisse vraiment réfléchir à tout l'environnement qu'on pose et comment ça entrave ou au contraire ça développe son potentiel.
Vous avez évoqué tout à l'heure le livre La Fée Dodo avec lequel vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
Oui, en effet, dans La Fée Dodo, donc on parle beaucoup de bienveillance, sauf que lorsqu'on lit entre les lignes, on s'aperçoit qu'on a ce désir vraiment de faire dormir l'enfant, en fait, le bébé. Et donc j'explique qu'on sait, grâce aux neurosciences encore une fois, que la structure cérébrale du sommeil du bébé, en fait, n'est pas du tout identique à la nôtre. Donc vouloir qu'il fasse nos nuits, en fait, c'est un peu embêtant et puis ça met la pression. Alors que le bébé est fait pour se réveiller toutes les 45 minutes pour vérifier, c'est ancestral, hein, que tout va bien dans la tribu. Et puis aussi parce qu'il a un petit estomac et qu'il se déshydrate vite et qu'il a besoin donc qu'on prenne soin de lui régulièrement et surtout de nous identifier comme étant une figure d'attachement. Donc une figure d'attachement, c'est quelqu'un qui va pouvoir nous secourir en cas de détresse. Et donc évidemment, de jour comme de nuit, il faut répondre à ce petit être qui a besoin de réconfort et de soins. Et donc plus on va lui apporter du soin, du réconfort dans ces moments de détresse, plus on va être identifié comme une figure d'attachement. Et si on est identifié comme quelqu'un sur qui on peut compter, eh bien l'enfant va avoir confiance en nous pour nous écouter dans les règles éducatives qu'on va pouvoir poser près de lui.
Vous proposiez par exemple ce matin de chaque personne de fermer les yeux, de repenser à l'enfant que nous étions, un moment de détresse et de voir quelle figure d'attachement venait à notre rencontre.
Oui, exactement. Je trouve que les adultes manquent souvent d'empathie quand même envers l'enfant. On a vite fait de dire oh, ça c'est un caprice, ça c'est une colère, arrête de chouiner, arrête de pleurer. Enfin, l'enfant roi, on entend tous ces termes-là et on voit qu'on a un regard vraiment d'adulte sur l'enfant et c'est comme si on avait oublié ce que c'était que d'être un enfant. Et donc, de toujours commencer mes conférences comme ça, j'aime beaucoup parce que ça permet à chacun de se recentrer sur son enfant intérieur et de se dire, ah bah tiens, en fait, qui est-ce qui était là pour moi quand j'étais en détresse, qui est-ce qui pouvait me cajoler, m'envelopper, me rassurer. Et puis, du coup, de se dire, bah tiens, est-ce que, en effet, j'ai demandé aussi ce matin de réfléchir à ces petites phrases, à ces actes qui ont pu nous blesser ou nous humilier, qui paraissent être ridicules pour des adultes. Et puis, d'ailleurs, j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Ils n'en sont pas morts, pour un peu me moquer de cette expression de ça va, on n'en est pas mort. Mais finalement, on a tous été un peu abîmés par ces petites phrases ou ces regards méprisants, que ce soit de la part d'un humiliant, d'un père, d'une mère, d'un parent, d'un oncle, d'une tante, des moqueries qui ont pu nous blesser en fait et nous faire perdre confiance en nous. Du coup, je propose de se reconnecter à son enfant intérieur pour pouvoir de nouveau être à l'écoute des enfants en fait et de ressentir un peu plus d'empathie à leur écart, ce qui permet de ne pas prendre leurs actes comme étant des actes qui sont faits pour nous embêter. Donc souvent, je parle dans mon cinquième chapitre sur la sécurité physique notamment, je parle de ne pas en faire une affaire personnelle quand le petit enfant touche à plein de choses et qu'on lui a dit non, c'est juste qu'il est dans l'exploration. Mais ne pas faire une affaire personnelle de ce que l'enfant fait alors qu'il est en plein développement.
Vous avez évoqué aussi tout à l'heure, les fondamentaux du développement de l'enfant, lesquels sont-ils ?
Les fondamentaux du développement de l'enfant, donc pour moi, en fait, pour que l'enfant puisse bien se développer, il a d'abord besoin d'une grande sécurité affective, donc ça veut dire qu'on puisse répondre à ses pleurs, répondre à ses colères de manière adaptée. Il a besoin de présence. Je me souviens d'un enfant en consultation, je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire, selon toi, aimer. Il m'a dit, aimer, c'est vouloir offrir du temps à la personne qu'on aime. Donc l'enfant, il a besoin qu'on lui offre du temps. Et ça, je trouve qu'il en manque cruellement maintenant de la part des adultes. Les adultes ne font que de dire qu'ils sont épuisés, qu'ils sont fatigués. Mais ils passent plus de 19 heures par semaine sur leurs écrans et 16 heures le week-end sur leurs écrans. Donc là, je parlais aussi de technoférence, le fait que les enfants ne sont plus regardés par les adultes, que ce soit dans la rue, dans les transports ou bien même chez eux, à cause des écrans. Donc ça fait naître vraiment beaucoup d'angoisse et puis aussi un sentiment de ne pas être considéré en fait par les adultes. Et ensuite, je dis que ce qui est important, c'est d'offrir une éducation bienveillante. Et donc pour moi, c'est une éducation dépourvue de règles de domination, c'est-à-dire d'outils dits éducatifs qui vont être des humiliations, des récompenses, des punitions, des mises à l'écart, etc.
Alors, il est important aussi de préciser, en tout cas, que ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, non totalement intellectuel. Vous passez aussi par l'expérience, parce que vous êtes maman et vous vous questionnez.
Tout à fait. Donc en fait, je trouvais ça assez simple d'être maman, puisque j'avais étudié la psychologie de l'enfant, du bébé, jusqu'à ce que mon fils ait 2-3 ans, qu'il devienne plus grand, plus gros, plus lourd, qu'il exige plus de choses. Et du coup, je me suis dit, je ne peux pas lui dire non, parce que sinon, il va sécréter du cortisol. J'ai appris dans le livre que le cortisol, c'est pas bon pour le petit, que ça abîme ses neurones, que son cortex préfrontal est immature, donc il ne peut pas comprendre vraiment le nom. Mais alors, comment je le protège ? Et en fait, là, j'ai une révélation, je me suis dit, mais finalement, on peut voir la vie, peut découper les règles sous deux formes. Il y a les règles de domination et les règles de protection. Et à partir de ce jour, j'ai décidé de n'offrir à mon enfant que des règles de protection. Et au fur et à mesure de mes consultations en cabinet et puis de ce qui se passait avec mon enfant, j'ai compris qu'en fait, il y avait uniquement 5 règles éducative de base, essentielle, pour préserver son potentiel. Et je décidais que tout acte qui était posé sur lui ne devait répondre qu'à ses besoins et jamais en lien avec les miens, mais uniquement les siens.
À nouveau, vous êtes au micro de Fréquence Mistral, Sonia Delahaye. Et vous êtes, je le rappelle, psychologue. Et vous étiez cet après-midi dans une table ronde, vous étiez intervenante sur les conséquences à long terme de la crise sanitaire de la jeunesse.
En effet, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle « Ils n'en sont pas morts » pour parler de ce qu'ont subi les enfants. Alors c'est un titre ironique pour dire que, en fait, à chaque fois qu'on fait subir des choses à un enfant, même s'il semble se suradapter, on abîme une partie de son potentiel. Et donc, ce qui m'a surtout marqué pendant cette crise, c'est que moi, je faisais partie, avant la crise, d'associations qui luttaient contre les violences éducatives. Et j'ai été surprise de voir que ces associations ne luttaient pas contre les violences que j'appelle sanitaires.
Les violences invisibles, vous avancez donc, le terme.
J'ai développé le concept de violence invisible, puisque je me suis dit, tiens, c'est intéressant, parce que finalement, quand j'ai rejoint ensuite les associations de violences sanitaires, et puis que j'ai pu échanger sur les violences éducatives, j'ai découvert que ces gens qui se révoltaient contre les masques, contre les PCR, qui voyaient ça comme de la violence faite sur les enfants, qui en est d'ailleurs, en fait, je le prouve dans mon livre, finalement ne se révoltaient pas contre les violences dites éducatives. Donc pour eux, une gifle, une fessée, une punition, une mise à l'écart n'étaient pas considérées comme de la maltraitance. Et finalement, j'ai compris que là où on pouvait tous se mettre d'accord, c'était sur un seul type de maltraitance, c'est-à-dire celle qui laisse des traces et qui est brutal. Si un acte ne laisse pas de traces et n'est pas brutal, on estime que ça n'est pas de la maltraitance. Et c'est pour ça, en fait, que chacun choisit ses combats et peut dire, ça c'est de la maltraitance, ça c'est pas de la maltraitance. C'est parce qu'on a tous cette référence-là de la maltraitance, c'est brutal et ça laisse des traces. Donc je propose, en fait, d'élargir le débat et se dire que tout acte qui entrave le bon développement de l'enfant doit être considéré comme de la maltraitance parce qu'on modifie sa trajectoire. Alors qu'il est prêt, le petit être humain, à se développer de manière optimale, de manière harmonieuse, quoi. Donc on l'abîme.
Vous avez beaucoup, j'imagine, de retours de par votre métier, de comment les enfants ont traversé cette crise. et quelle maltraitance ils ont subi.
Alors les enfants se sont beaucoup suradaptés, hein, donc les adultes se sont peu mobilisés parce que déjà, comme je vous le disais, le concept de maltraitance est flou. Puis les enfants étant élevés beaucoup dans des règles de domination ne se plaignent pas, se suradaptent, mais la suradaptation c'est mauvais puisque c'est du stress chronique en fait en permanence. Eh bien ces enfants se sont en effet suradaptés, puis tant qu'on est dans la scène traumatique, j'avais réfléchi à ça, j'avais pas eu le temps d'écrire un article là-dessus, mais j'avais pensé à ça. C'est-à-dire qu'on disait « Ah, mais les gens s'adaptent ». Je disais « Oui ». En fait, tant qu'on est dans la scène traumatique, en fait, on s'adapte, on survit. Mais c'est une fois que de nouveau on se retrouve en sécurité, bon, il se trouve que là, on a quand même enchaîné les insécurités, donc on va encore voir les dégâts dans quelques temps. On retarde encore les effets à chaque fois qu'on recrée un traumatisme. Mais finalement, quand on sort de la scène traumatique, c'est là où il y a décompensation. Et du coup, on voit ces enfants qui vont mal, en fait. On a vu des tentatives de suicide chez des petits de 6-7 ans. On n'avait jamais vu ça avant. Des enfants qui essayaient, en s'enfonçant des foulards dans la gorge, en fait, de se suicider. Ensuite, il y avait les gels hydroalcooliques qui abîmaient les mains des enfants. Mais même si les enfants avaient les mains brûlées, on ordonnait aux enfants de continuer à s'aligner, à se mettre à la queue leu-leu, à tendre leurs petites mains et à recevoir du gel hydroalcoolique avant de rentrer dans... Enfin, il fallait être pur, hein, avant de rentrer dans le bâtiment. Voilà, purifié. Il y a les bébés aussi en crèche ou dès la naissance en maternité qui se sont trouvés face à des adultes masqués. Mais on sait que pour que l'enfant développe certaines connexions neuronales et notamment prenne conscience de ce qu'est-ce qu'un schème des visages, c'est-à-dire deux yeux, un nez, une bouche, il faut qu'il soit exposé le plus rapidement possible à plusieurs visages en fait, autour de lui, pour que l'enfant se fasse un prototype des visages et qu'il ne soit pas surpris après quand il découvre d'autres visages dans son environnement. Donc évidemment, ça, c'est encore de la maltraitance quand finalement, on empêche un enfant de voir les visages des adultes puisqu'on modifie ses connexions neuronales. Ensuite, il y a eu aussi les adolescents qui ont été empêchés de passer leurs examens, de suivre leurs cours, qui ont pris un retard considérable, qui ont été plongés devant les écrans, les petits de 3 ans aussi, où là j'ai vu les plus gros dégâts au début ont été chez les enfants de 3 ans, ça a été le plus visible rapidement. Parce qu'en fait, ils n'ont plus rien manipulé chez eux, ils ont été mis devant les écrans. J'ai pu voir apparaître des traits autistiques en fait, à cause de ces écrans, de ces tablettes interactives qui finalement apprennent à l'enfant une pensée plaquée, mais pas du tout une réflexion en fait.
Lors de vos consultations, vous disiez que vous demandiez aux enfants comment avaient-ils traversé le confinement.
Alors, quand je demande aux enfants, mais aussi notamment, surtout aux adultes, comment ils ont traversé le confinement, souvent les adultes me disent « Ah, mais moi, ça a été, il faisait super beau, et puis je suis partie à la campagne. » Mais en fait, là, on parle du premier confinement. Ça a duré un mois et demi, deux mois, peut-être trois mois. Mais la crise Covid a duré plus de trois ans. Et donc, les gens ont complètement oublié le fait qu'on avait des couvre-feux, qu'on devait être rentré à 17h à la maison, qu'on devait signer des attestations, donc on devait écrire à soi-même comme quoi on s'autorisait à sortir. On n'avait plus le droit d'acheter des livres, des jeux pour nos enfants, des pantoufles pour les grands-parents. C'était le gouvernement qui décidait de ce qui était essentiel ou non. Voilà, et donc grosse répression pendant tout ce temps, et donc la peur au ventre de patients qui me disaient qu'ils s'étaient trompés dans la date de leur auto-attestation, et du coup ils se prenaient des amendes parce qu'ils n'avaient pas mis la bonne date, quoi. Donc voilà, on perdait tout le sens de tous ces protocoles, tout ce qui comptait c'était d'exécuter les ordres. Oui, les enfants se sont suradaptés, les enfants peuvent dire encore aujourd'hui non, ça va, ça a été, mais moi je vois les dégâts, les retards de parole, les difficultés de socialisation, la peur des maladies, le besoin de se laver les mains un milliard de fois par jour, voilà, donc tout ça a été très compliqué, la difficulté pour un adolescent d'enlever son masque, parce que l'adolescence c'est le début de la transformation, du visage aussi, il y a l'acné, etc. parfois, donc ça a été facile pour les adolescents de se cacher, mais finalement... Ces adolescents, ensuite, ils n'ont pas appris à affronter le regard de l'autre et souvent souhaitaient garder le masque encore après, quoi.
Est-ce qu'une série de crises a été mise en place après tous ces confinements lorsque les enfants ont dû retourner à l'école ?
Non, c'est d'ailleurs ce que je dénonce dans mon livre, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, un attentat, un suicide dans une école, enfin qu'il y a un drame, en fait, le gouvernement doit mettre en place, l'Éducation nationale, des cellules de crise, en fait, pour que les enfants puissent parler, évoquer ce qu'ils ont vécu, etc. Donc là, on a quand même parlé de morts, on comptait les morts quand même tous les soirs, d'une épidémie épidémie mondiale, etc. On a confiné les gens. Et quand on a déconfiné, que les enfants sont retournés à l'école, au lieu de les accompagner et de leur proposer un espace pour échanger sur ce qu'ils avaient vécu, pour découvrir ce qu'ils avaient vécu aussi à la maison, parce que ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais certains enfants me disaient qu'ils sont restés enfermés parce qu'ils avaient des petits signes de rhume, enfermés dans leur chambre par les parents, avec un plateau repas devant la porte et interdiction de sortir de la chambre pendant 10 jours, sauf pour aller aux toilettes. En fait, ils revenaient traumatisés dans mes consultations. Donc les enseignants ne se sont pas du tout intéressés, pour la plupart, hein, à comment allaient les enfants, ce qu'ils avaient vécu pendant le confinement, et puis n'ont pas proposé en fait des espaces de parole, mais au lieu de ça, on a accueilli les enfants comme des pestiférés, responsables de la propagation du virus, responsables de la mort de papy et mamie, et donc il fallait les masquer dès 6 ans, et en plus on les masque pour les enfants de 6 ans. Cette décision a été prise en même temps qu'on a décidé de leur parler de la liberté d'expression et d'attentat, en fait. Du coup, les enfants étaient masqués le même jour où on allait leur parler d'un prof décapité, et donc de liberté d'expression. Parler de liberté d'expression à des enfants qu'on masque, c'était complètement dingue encore comme message.
Combien d'enfants sont morts pour combien de millions de petits Français ?
Alors, en fait, aucun enfant n'est mort du Covid, ou de la Covid, hein, selon le style envie de donner, mais certains enfants sont morts avec un test PCR positif, c'est-à-dire qu'ils sont morts d'autre chose, mais comme on faisait passer des tests PCR à tout le monde, voilà, on a enregistré ces cas-là aussi dans les morts du Covid, mais c'est mort avec Covid. Donc 6 enfants et 11 enfants adolescents. Et en fait, il faut savoir qu'il y a plus de 16 millions d'enfants en France. Et donc par contre, 16 millions d'enfants ont été maltraités pendant cette période, puisque même le tout petit bébé, comme je vous le disais, en fait, a subi ces protocoles sanitaires. Et même in utero, puisque la mère a vécu un énorme stress, ne sachant pas si son mari pouvait l'accompagner ou pas pendant l'accouchement, en ne sachant pas comment elle allait être traitée, si elle allait devoir porter un masque en même temps qu'on accouche. Enfin, quand même super dur de respirer en accouchant avec un masque. Donc les enfants étaient des in utero, en fait, traumatisés.
Des enfants à partir de 8 ans jusqu'à 18 ans ont pris des antidépresseurs pendant cette crise ?
Oui, des antidépresseurs qui n'étaient pas adaptés pour les enfants, mais dont le dosage a été repensé un peu au pif, quoi.
Selon vous, quel danger y a-t-il à élever les enfants dans la soumission ?
Le danger, c'est qu'on les expose en fait aux futurs prédateurs, à dire oui à des futurs prédateurs en fait. Éduquer l'enfant à l'obéissance, c'est le fait d'exécuter sans réfléchir. Ça ne lui permet pas de raisonner sur ce qu'on lui demande, mais plutôt d'obéir quoi qu'on lui demande. Quand on lui dit tu dois obéir à l'adulte, imaginez un adulte malveillant, un prédateur sexuel, et qui demain lui demande certaines choses. Si on l'éduque à obéir à l'adulte, l'enfant, il obéit. On a bien vu qu'ils étaient ultra soumis. Et on voit malheureusement un retour en force d'une éducation dite traditionnelle, avec notamment le fameux livre « File dans ta chambre », etc. de Caroline Goldman, qui montre une volonté, en fait, d'emprisonner l'enfant dans la soumission.
Concernant le tableau standard qui a été mis en place par l'OMS, vous parlez d'effraction psychique.
Oui, en fait, l'OMS a décidé de mettre en place des cours avec l'éducation nationale, des cours d'éducation à la sexualité. Et en quoi c'est un problème ? C'est-à-dire qu'on va parler d'initiation au plaisir sexuel. Donc, il se trouve que certains enfants ont entendu, en fait, la pratique de certains actes sexuels, toutes les positions possibles, etc. Et tout ça, ça crée des effractions psychiques. Donc ça fait des enfants, en fait, qui ont une vision hypersexualisée du monde, qui aussi ont des images qui leur reviennent sans cesse sur la sexualité, quoi. Voilà, et on parle d'effraction psychique, c'est-à-dire un viol psychique, c'est-à-dire qu'on a imposé des images à des enfants.
Conseillez-vous aux parents de s'informer vraiment, alors c'est un peu flou, sur les cours d'éducation sexuelle qui sont donnés dans les écoles ?
Oui, et notamment de regarder le site On s'exprime, qui a été pensé par l'Éducation nationale comme support en fait pour les professeurs et les adolescents qui parlent de différentes positions sexuelles. Or, il y a aussi une circulaire qui explique qu'en aucun cas, l'école ne doit faire la promotion de la sexualité. J'encourage les parents à se renseigner sur cette circulaire et à faire valoir leurs droits. Hein. Et notamment à découvrir aussi le tableau standard de l'OMS, qui est un document officiel en fait, qui est appelé « Standard pour l'éducation sexuelle en Europe ».